Bon réveil, il est 6h.
Et on commence avec le kidnapping de la petite Mia dans les Vosges. La petite fille de 8 ans n'a pas encore été retrouvée. L'alerte enlèvement a été levée dans la nuit. On fait le point au début de ce journal. La campagne de vaccination en entreprise peine à démarrer. En cause, l'organisation de la médecine du travail. C'est une information Europe 1. Plusieurs plaintes ont été déposées après de graves effets secondaires suite à l'injection du vaccin AstraZeneca. Un sondage IFOP donne le Rassemblement National en tête en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les élections régionales. Et puis des soirées poker et massage en plein cœur de Paris. Un tripot clandestin de luxe vient d'être démantelé dans les beaux quartiers.
À suivre la page des sports et le PSG qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et puis mon invité inattendu est un politique ce matin qui vient partager avec nous sa passion pour le surf. Le surf, nouvelle discipline olympique, les JO dans pile 100 jours à Tokyo.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les recherches se poursuivent pour retrouver la petite Mia. Le dispositif alerte enlèvement déclenché hier soir a été levé dans la nuit. Mais pour l'instant, toujours pas de traces de la petite fille. L'enquête continue. À ce stade, Johanna Chabas, que sait-on des circonstances de ce kidnapping ?
Eh bien, la petite fille de 8 ans était chez sa grand-mère maternelle dans le village des Poulières, dans les Vosges, lorsqu'en fin de matinée, vers 11h30, trois hommes l'ont enlevée. Les trois kidnappeurs, âgés de 25 à 50 ans, pourraient circuler à bord d'un véhicule Volkswagen transporteur gris. Mia a été placée chez sa grand-mère après une décision du juge des enfants. Sa mère, Lola, n'a pas le droit de la voir seule. Et justement, les gendarmes pensent que la petite Mia pourrait être avec sa maman, qui conduirait une autre voiture, une Peugeot 207 noire. Pour l'instant, la piste privilégiée par les enquêteurs est que la mère de Mia pourrait avoir organisé l'enlèvement.
Les précisions de Johanna Chabas.
Le vaccin AstraZeneca a-t-il causé la mort d'au moins 9 personnes en France ? C'est ce que des autopsies et des analyses doivent déterminer.
Oui, c'est une information Europe 1. Plusieurs plaintes ont été regroupées par un avocat après des effets secondaires suite à l'injection du vaccin. Après la mort le mois dernier d'un jeune homme de 24 ans, quelques jours après avoir reçu le sérum, maître Étienne Boitin a été saisi par 8 autres familles pour éclaircir les circonstances d'autant de décès.
Parmi les personnes qui sont décédées, aucune ne présentait un quelconque antécédent médical en relation avec la survenance d'une thrombose qui leur a été fatale. Les plaintes qui ont été déposées l'ont été sur le fondement de l'homicide involontaire. Cette qualification pourrait être amenée à évoluer. Concernant des personnes qui ne sont pas décédées, mais qui disent avoir déploré des conséquences graves suite à l'injection d'AstraZeneca, nous avons une quinzaine de dossiers. Ce sont essentiellement des atteintes de nature vasculaire ou de nature neurologique. J'ai été saisi par deux personnes qui m'ont indiqué avoir déploré des complications graves liées à l'injection du vaccin Pfizer. Ce ne sont pas des personnes qui sont décédées. On a un AVC et on a des tremblements qui pour l'instant ne s'expliquent pas.
Maître Étienne Boitin, avocat à Saint-Nazaire, joint pour Europe 1 par Charles Guyard. Et puis, il y a désormais un autre vaccin dans la tourmente, celui de Johnson & Johnson, qui provoquerait lui aussi de carrares de graves caillots sanguins. Les États-Unis ont préféré mettre en pause son utilisation pour l'instant. Après cela, Johnson & Johnson a annoncé retarder le déploiement de son vaccin en Europe.
La vaccination en entreprise, à présent, depuis un peu plus de 2 semaines, il n'est plus nécessaire d'avoir un médecin du travail pour vacciner ses salariés. Un infirmier suffit.
Oui, c'est un soulagement pour beaucoup de sociétés qui se heurtaient jusque-là aux lenteurs de la médecine du travail. Maud Descamps, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les campagnes de vaccination via la médecine du travail, eh bien, ça ne fonctionne pas.
Alors, écoutez bien ce chiffre. Seulement 10 500 personnes se sont fait vacciner par la médecine du travail sur 11 millions de Français qui ont déjà reçu une première dose. Ce sont les derniers chiffres de la Direction Générale de la Santé. Donc, clairement, ça ne marche pas parce que le processus est lourd, difficile d'obtenir un rendez-vous. Et puis surtout, les doses ne sont pas suffisantes. C'est ce qu'a constaté Noah, DRH, dans une entreprise de pétrochimie.
La première phase a été d'orienter nos collaborateurs vers les médecines du travail. Sauf qu'on voit que les médecines du travail ont vraiment du mal à se procurer des vaccins et du coup à pouvoir vacciner un maximum de salariés en général.
Cette DRH a donc contacté un réseau d'infirmiers libéraux pour mettre en place une campagne de vaccination pour ses salariés. Les doses devraient être disponibles d'ici 3 semaines.
Et les entreprises qui ont recours à des infirmiers sont nombreuses.
Oui, et elles veulent que ça aille vite. Florence Herry, une infirmière qui organise des campagnes de vaccination en entreprise, croule sous les demandes.
De nombreuses entreprises nous ont resollicités pour appuyer sur le bouton et mettre en place des campagnes de vaccination. Être vacciné aujourd'hui permet d'envisager un retour au travail à la normale dans beaucoup d'entreprises, éviter du coup l'absentéisme et surtout assurer une sécurité sanitaire dans les locaux et dans les lieux de travail.
Avec la reprise économique aux États-Unis, les entreprises du CAC 40 sont sur les rangs. Le groupe Total, par exemple, qui a déjà ouvert 6 centres de vaccination, prévoit d'élargir le dispositif à des plus petits sites. Le but recherché par tous ici, faire revenir les salariés sur site dès la rentrée en septembre prochain.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. La France suspend ses liaisons aériennes avec le Brésil en raison de l'inquiétude autour du variant brésilien plus dangereux. Air France a d'ores et déjà annoncé l'annulation de ses vols vers et en provenance du Brésil prévus aujourd'hui. Emmanuel Macron présidera demain une réunion avec la plupart de ses ministres pour examiner les protocoles de réouverture des lieux fermés. Dans sa dernière allocution du 31 mars, le chef de l'État avait annoncé la réouverture avec des règles strictes, des terrasses de bars et restaurants à partir de la mi-mai.
En attendant, les restrictions restent les mêmes, interdiction de se rassembler, sauf, on va le voir dans certains cas, pour les étudiants.
Oui, ceux qui passent des concours, c'est la période en ce moment. Normal, sup, polytechnique, les mines, obligation d'être présent à l'examen et ce n'est pas toujours évident. Virginie Riva.
Le règlement est clair, même positif au Covid, les élèves de BTS qui ne se présentent pas à leur épreuve ont un zéro, non éliminatoire mais quasiment irrattrapable. Ridouane est en BTS à La Rochelle, il demande avec son collectif le passage en contrôle continu.
On est en confinement là en ce moment, mais on va nous dire, y a pas de souci, vous pouvez aller aux examens, vous allez être 1000 dans des lycées, dans des hangars. Dans...
Mais vous, si vous êtes positif, est-ce que vous irez quand même à votre examen?
Ah bah personnellement, j'y vais. Je suis obligé, j'ai passé 2 années à travailler, à bosser mon BTS.
Les étudiants du Gobillard, professeurs en classe prépa, eux sont moins inquiets. Mais même s'ils sont malades, ils se présenteront également à leur concours d'école de commerce. Ils en ont même parlé ensemble.
Les étudiants aujourd'hui ne savent pas s'ils pourront repasser le concours si jamais ils sont malades là, au mois d'avril ou s'ils seront condamnés à le repasser un an après. C'est sans doute une des raisons qui fait qu'ils se présentent quand même s'ils sont malades.
À l'entrée des salles, pas de prise de température ni de test PCR. Dans certains centres d'examen, une salle Covid a été prévue pour ceux qui se sentiraient mal ou auraient des symptômes durant les épreuves.
Virginie Riva. Et puis l'épidémie va coûter 424 milliards d'euros sur 3 ans à la France, selon le ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt. Une somme qui comprend notamment les aides dédiées aux mesures d'urgence, comme le fonds de solidarité et le chômage partiel.
Il est 6h08 sur Europe 1. Les élections régionales et départementales auront finalement lieu les 20 et 27 juin prochains. En région PACA, la liste Rassemblement National de Thierry Mariani est donnée en tête avec 31% des intentions de vote contre 26% données à la liste LR.
Et c'est ce que révèle un sondage Europe 1 La Tribune réalisé par l'IFOP et publié aujourd'hui sur les intentions de vote dans la région. À Cannes, notre correspondant dans le Sud-Est, Frédéric Michel, a demandé leur avis aux habitants.
Pour les électeurs de droite, afficher une préférence pour le Rassemblement National n'est donc plus tabou. Mais ce qui a convaincu cette cannoise, c'est Thierry Mariani.
Je ne pourrais pas vous parler du parti, je parle de l'homme, lui personnellement. Les idées, c'est autre chose, Marine Le Pen, c'est autre chose.
Et même les positions du Rassemblement National ne semblent plus être un obstacle pour les électeurs de droite.
Pour moi, personnellement, ils ont des idées qui se défendent, le Front National, hein, puisqu'ils se sont moins radicalisés. Mais après, il faut savoir gratter le vernis quand on va voter, quoi. On a souvent eu des surprises dans les urnes. Les gens, quand ils sont tout seuls, ils réfléchissent.
Si le vote reste incertain, l'image du Rassemblement National a changé. Marie et François, un couple de jeunes retraités cannois.
C'est la personnalité des gens. Moi, le parti, pas parti, je m'en fous. C'est nous, bien. On votera plus Muselier, oui. Mais après, je n'ai pas de blocage systématique.
Il voilà. y a un
tel ras-le-bol que de toute façon, c'est sûr que les gens voudront trouver un changement.
Rien n'a été fait dans le bon sens, c'est que ça va pas.
Déçue par sa famille politique, Nathalie a, elle, décidé de ne pas voter.
Nous, on était LR à la base, hein, mais maintenant, moi, le LR qui prend la suite vers tous ces gens-là qui sont quand même très à droite, qui tiennent des propos quand même très lepéniste. Ben non.
Et ces élections régionales auront lieu les 2 derniers week-ends du mois de juin.
On va détailler les enseignements et les résultats de ce sondage Europe 1 avec le directeur adjoint de l'IFOP qui a réalisé cette enquête. Frédéric Dabi est mon invité à 6h40.
Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, présentera tout à l'heure en Conseil des ministres son projet de loi visant à restaurer la confiance dans la justice. Parmi les mesures phares, les procès filmés, l'encadrement des enquêtes préliminaires ou encore la généralisation des cours criminels.
Un tripot clandestin vient d'être démantelé en plein cœur de Paris.
À l'intérieur, poker, restauration et massage, alors que tous les établissements recevant du public, on le sait, sont fermés. 6 organisateurs présumés ont été mis en examen, Guillaume Bier.
Oui, ils ont vu grand, trop grand sans doute, ce père de famille, ses 2 fils et leurs associés qui géraient jusqu'ici un tripot clandestin en banlieue parisienne. Affaire florissante, à tel point qu'ils ont tout déménagé le mois dernier, direction Paris, la prestigieuse avenue Foch, près de l'Arc de Triomphe. Les suspects ont réussi à louer un appartement de 250 mètres carrés réparti sur 4 étages. À l'intérieur, ils proposaient à leurs habitués des tables de poker, vente de cigarettes, de quoi se restaurer aussi, et avec pour le confort des joueurs lors des longues parties, des serveuses masseuses. Rien que cela. Ce que les gérants ignoraient, c'est qu'à la direction centrale de la police judiciaire, le service des courses et jeux enquêtait sur eux depuis 6 mois déjà. Les policiers ont débarqué en pleine nuit et interrompu les parties en cours. Une amende à venir pour les joueurs et une garde à vue pour les 6 organisateurs présumés, dont l'un était armé. Ils ont tous été mis en examen.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. Et puis la pollution aux particules fines tue au moins 40 000 personnes par an, selon les nouvelles estimations de Santé publique France. La tendance est à la baisse. Par ailleurs, le premier confinement du printemps dernier a permis d'éviter 3 500 décès, grâce notamment à la réduction du trafic routier.
C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1. Il est 6h11. Lénaïque Meunier pour le journal des sports et ça casse mais ça passe pour le PSG en Ligue des Champions.
Paris est en demi-finale de la prestigieuse compétition et pourtant les Parisiens se sont inclinés 1-0 hier soir au Parc face au Bayern Munich. Ils accèdent au dernier carré grâce à leur victoire 3-2 la semaine dernière sur la pelouse du Bayern. Match fort en émotion où Paris a souffert mais n'a jamais lâché pour faire tomber le tenant du titre. Écoutez l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jimmy Algerino.
Paris a montré que sur son calcul, sur la préparation, ils font partie des grands et c'est essayer de se mettre à l'abri rapidement et de tuer une qualification déjà par le premier match. Et ce qu'ils ont réussi à faire, ils ont montré de belles choses et vraiment que Paris a passé le cap et se retrouve maintenant parmi les 4 meilleures équipes en Europe.
Jimmy Algerino, ancien joueur du Paris Saint-Germain, invité de Lionel Rousseau hier soir.
Et un homme s'est particulièrement illustré sur le terrain hier soir, c'est Neymar.
Poteau, transversal, duel perdu face à Neuer, le gardien du Bayern, le Brésilien a vraiment donné de sa personne. Laurent Fournier, qui a entraîné le Paris Saint-Germain, nous commente justement cette prestation de haut vol.
Il a joué avec efficacité. D'habitude, on a l'impression qu'il en fait beaucoup plus pour le spectacle. Là, il a été efficace. Il a été efficace avec ses partenaires. Il a été efficace pour lui. C'est pour ça qu'il se crée des occasions.
Et Neymar qui en a profité pour glisser hier qu'il se sentait mieux à Paris qu'avant et qu'il espérait prolonger. Voilà qui met le Brésilien dans de bonnes dispositions avant les demi-finales qui opposeront le Paris Saint-Germain à Manchester City ou bien à Dortmund qui s'affrontent ce soir. Dans l'autre moitié de tableau, Chelsea qui a sorti Porto retrouvera ou le Real ou Liverpool.
Le foot toujours et l'équipe de France féminine à Calais hier soir.
C'était un match amical face aux États-Unis. Défaite 2-0 contre les championnes du monde. Fin d'une série de 16 matchs sans défaite. Le dernier revers des Bleus. C'était en quart de finale de la Coupe du Monde en France, déjà face à ces redoutables américaines.
À Tokyo, le compte à rebours est déclenché. Les Jeux Olympiques débutent dans 100 jours.
Et ça commence à démanger les athlètes qui ont reporté d'un an leur préparation. Alors ce décompte, finalement, il fait du bien. Écoutez Charline Picon, championne olympique de planche à voile.
Évidemment, c'est particulier parce que l'année dernière, je me sentais prête, j'étais dans ma dernière ligne droite. Là, on a passé le mois de mars, donc a priori, c'est bon. Et effectivement, là, ça y est, là, on peut vraiment dire qu'on s'approche de plus en plus de l'objectif. Et ouais, c'est quand même assez plaisant dans cette période assez compliquée. On se dit, bon, on va quand même pouvoir enfin aller se mesurer sur ce plan d'eau japonais. Donc, ouais. Il faut se préparer à des jeux différents. Donc la préparation ne pouvait pas être pareille.
Charline Picon qui tentera le doublé sur le plan d'eau de Tokyo. Elle était interrogée par Corinne Boulou.
Et c'est un grand champion qui est sur Europe 1 ce matin. Ne manquez pas ce rendez-vous avec Mathieu Béliard tout à l'heure, 7h40. Le tête-à-tête avec Teddy Riner, le judoka français double médaillé d'or.
Le tennis pour terminer, Jérémy Chardy et Lucas Pouille qualifiés pour le deuxième tour à Monte-Carlo où l'on verra aujourd'hui l'entrée en lice de Rafael Nadal et de Novak Djokovic.
Merci Lénaïque Meunier pour les sports.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1. Et on le disait, les Jeux Olympiques de Tokyo, ça y est, arrivent dans 100 jours, précisément le 23 juillet, avec parmi les toutes nouvelles disciplines, le surf. Et c'est un fanat de surf qui est mon invité inattendu ce matin. Bonjour.
Bonjour. Je suis Aurélien Pradier, député du Lot et secrétaire général des Républicains.
Bonjour Aurélien Pradier, bienvenue. Député donc et surfeur habitué des vagues de la côte atlantique. On parle glisse dans un tout petit instant. À tout de suite.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
On rêve des vagues du Pacifique ce matin sur Europe 1 avec les Beach Boys et à 100 jours des JO de Tokyo, le surf, nouvelle discipline olympique. C'est le député du Lot, Aurélien Pradier, qui est mon invité inattendu. Aurélien Pradier, vous êtes donc un surfeur aguerri ?
Aguerri, je ne sais pas, en tous les cas, depuis gosse, depuis que j'ai à peine 10 ans, j'ai passé beaucoup de mes étés sur une planche de surf, et c'est une passion qui ne m'a pas quitté, que je retrouve tous les mois, été comme hiver, sur la côte atlantique, près du Cap Ferret, à la pointe du Cap Ferret, et à l'endroit où je m'échappe et où je passe une bonne partie de mon été tout seul avec ma planche de surf et les vagues de la période d'été et de la période de septembre.
Vous y allez, vous dites été comme hiver, c'est-à-dire que vous avez tout l'équipement, vous mettez la combi et tout ?
La combi, les gants parce que je suis un peu frileux, les chaussons, la cagoule parce que la barre dont on entend parler en général au surf, mais l'hiver, on arrive à prendre un petit coup de massue sur le front quand l'eau est un peu froide, avec une petite casquette, ça va mieux. Et donc oui, été comme hiver, avec une tradition qui est le premier jour de l'an, pendant que les copains reprennent leurs esprits à la maison, je vais me mettre à l'eau en général tout seul. Le surf fait plus de sens quand on y va seul.
Vous y allez seul, ça veut dire que c'est votre petite, c'est votre bulle, c'est votre échappatoire quand il faut fuir un peu les soucis et la politique.
Oui, c'est mon espace de liberté, surtout l'été. Je pars pendant quasiment un mois dans cet endroit où j'ai passé une partie de mon enfance. Je retrouve toujours la même dune et je passe mes journées seul avec ma planche. Oui, ça fait partie de ces moments d'échapper, un peu de solitude parfois en politique, ça fait pas de mal. Et puis, c'est aussi une belle leçon d'humilité, parce qu'en général, quand vous vous retrouvez à l'eau, seul, vous êtes ni député, ni secrétaire général de je ne sais quoi, vous êtes un surfeur qui ramasse des vagues et quelques tôles comme les autres. Donc, c'est une belle leçon d'humilité.
Vous avez eu l'occasion de surfer ailleurs, vous avez voyagé un peu pour aller chercher des vagues ailleurs ?
Portugal, je suis allé deux ou trois fois, cette fois-ci plutôt avec une bande de potes. J'ai fait le Maroc aussi. Darla en particulier est un lieu assez magique, mais c'est vrai que je me retrouve bien quand je reviens sur les lieux de mon enfance, et donc la pointe du Cap Ferret en fait partie. C'est pas les zones les plus faciles à surfer, c'est pas les plus régulières, mais c'est là où j'ai tous mes souvenirs et vraiment tous les espaces de liberté qu'on peut retrouver au surf. Donc j'aime bien le surf en France. À l'étranger, ce sera pour le moment où j'aurai un peu plus de temps. Je rêve à la retraite de pouvoir passer du temps à choisir ma planche de surf le matin et d'avoir comme seule préoccupation que je choisis ma destination pour le surfer le mieux possible.
Ben voilà, il y aura peut-être le Pacifique parmi ces destinations. Il y aura du surf à la télévision donc cet été, puisque c'est devenu une discipline olympique. Vous suivez les grands noms du surf, les compétitions ?
Oui, je les suis un petit peu. Alors, j'ai quelques références, mais qui sont plutôt des références anciennes en fait de surfeurs, notamment les surfeurs, ce qu'on appelle les surfeurs de gros, ceux qui ont initié il y a quelques décennies le surf des vagues monumentales. C'est une pratique que je n'ai évidemment pas, mais je suis extrêmement admiratif de leur résistance à la peur. Un gars comme Gary Lopez, qui doit avoir près de 70 ans maintenant, est un Américain des années 70, qui faisait mon admiration, un gars qui a une zénitude absolue et qui surfait des murs de quelques dizaines de mètres parfois. Voilà. Puis après, j'ai de l'admiration pour les potes qui sont avec moi, qui sont des bien meilleurs surfeurs parfois que moi. Parfois, c'est envers eux que j'ai la plus grande des admirations.
Qu'est-ce qu'on sait des Français ? Ils sont bons ? Est-ce qu'on peut espérer des médailles en surf ou on va avoir du mal ?
C'est pas notre culture traditionnelle. C'est pas hyper simple. On n'a pas non plus des terrains d'exercice aussi faciles, j'allais dire, même si aucun n'est facile, mais été comme hiver. On n'a pas de longueur d'avance, mais nos Français sont plutôt bons. Ils ont le style français, donc c'est aussi une vraie marque de fabrique. Les Américains, évidemment, ont une longueur d'avance sur nous, y compris historique. Mais je pense qu'on peut surprendre, y compris avec un style qui est un style bien français, y compris sur une planche de surf, ça se ressent.
Et il y aura du surf aussi au JO de Paris 2024, mais pas sur la côte atlantique. Hein. Ce sera très loin de la métropole, en Polynésie française. Ça va donner des images incroyables de voir cette compétition de surf en Polynésie.
C'est très lié au surf, les images. Notamment quand on a redécouvert la photo immergée, on a aujourd'hui des photos incroyables de l'expérience du surfeur. La sensation du surf, oui, on aura des images magnifiques. Des images à la fois du style, du matériel, du surfeur et de la nature. En fait, tout ça est absolument lié. Les lieux où vous aimez surfer, c'est des lieux qui sont esthétiquement beaux, sont des lieux de liberté. La Polynésie, évidemment, c'est un lieu à de grands, grands et beaux atouts.
Un sport de grands espaces et de nature. Le 23 juillet, dans 100 jours précisément, ouverture des JO de Tokyo, avec donc du surf, mais aussi du baseball, de l'escalade, du karaté et du skateboard pour les 5 toutes nouvelles disciplines olympiques. Pour vous, c'est quand la prochaine session de surf, Aurélien Pradier ?
Je suis en campagne régionale, donc c'est pas très très ça, mais pour tout vous dire, je pense pouvoir m'échapper le week-end prochain. Je crois que je vais faire un petit aller-retour le dimanche parce que sinon je vais finir par perdre les quelques conditions que j'ai. Donc c'est possible que dimanche prochain je sois au rendez-vous.
Bon, bah écoutez, si vous avez la possibilité de vous déplacer, en tout cas, parce que c'est pas si simple en ce moment.
Non, c'est pas si simple qu'effectivement en ce moment. Ça peut se faire à proximité du lieu où je serai, mais dès que les conditions permettront de nous libérer nos circulations, effectivement, je le ferai. Vous avez raison. Ce dimanche, ce sera pas encore le cas. Donc ça attendra la sortie du confinement.
Merci à vous Aurélien Pradier et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt sur Europe 1.
Merci, au revoir.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h22 sur Europe 1. Le dispositif alerte enlèvement a finalement été levé en fin de soirée après la disparition de Mia dans les Vosges. Mais l'enquête continue car la petite fille de 8 ans n'a pas encore été retrouvée. Mia a été kidnappée par 3 hommes alors qu'elle était gardée par sa grand-mère. Le laboratoire Johnson & Johnson retarde le déploiement de son vaccin en Europe alors que les États-Unis l'ont déjà écarté provisoirement après 6 cas sévères, rares mais sévères de thrombose recensés chez des personnes récemment vaccinées. Et puis, les députés approuvent le report d'une semaine des élections régionales et départementales. Elles auront lieu les 20 et 27 juin.
Europe 1.
6h23, c'est l'heure d'ouvrir la partition avec Omblin Roche. Le récit, chaque jour, l'histoire derrière un artiste, derrière la musique et derrière Bowie. Ce matin, Omblin. Bowie, caméléon musical, oui. Dont les reprises, les remises en question ne se sont jamais faites sans heurts, et notamment auprès de ses fans les plus fidèles. Alors, il y a 38 ans, Bowie cède à l'appel des sirènes des pistes de danse. Et beaucoup crient au scandale.
Oui, c'est ce qu'on appelle encore, Sébastien, un virage à 180 degrés dans une carrière au début des années 80. David Bowie, non seulement à la recherche d'un nouveau son, mais aussi d'une nouvelle audience. Au diable, les susceptibilités, il est prêt à payer le prix de la trahison. Si à la clé, il décroche un tube planétaire.
Son cheminement de réflexion commence lorsqu'il s'accorde enfin des vacances.
Après le succès honorable de son album Scary Monsters et du single Ashes to Ashes, David Bowie se coupe du monde et part se ressourcer sur une plage d'une île du Pacifique Sud. Il emporte dans ses bagages quelques disques des années 50 et 60. Il écoute James Brown ou le bluesman Albert King. Et lorsqu'il rentre, c'est décidé. Il remet les expérimentations dont il est pourtant friand à plus tard. Il veut savoir ce que ça fait de remporter un grand succès populaire. Et non, ce n'est pas un gros mot.
Pour fabriquer un tube, c'est pas bien compliqué, il faut s'en remettre à un spécialiste.
À celui qui a, par exemple, permis à Diana Ross de sortir le disque le plus vendu de sa carrière. On en a parlé ici, l'album des chansons Upside Down et I'm Coming Out. Celui qui, avec son groupe Chic, a enflammé les boîtes de nuit new-yorkaises. Le guitariste Nile Rodgers est un crack en matière de musique disco-funk. Il est l'homme de la situation.
Encore lui, Nile Rodgers. Et surtout, ça va être donnant pour Nile Rodgers qui a envie de s'éloigner du disco.
Et oui, car le disco est en train de mourir et il est vital pour lui de se renouveler.
David Bowie s'isole chez lui en Suisse avec Nile Rodgers pour se mettre au travail.
Le guitariste raconte que David Bowie lui a montré une photo de Little Richard en costume rouge dans une Cadillac en lui disant: c'est comme ça que je veux que mon album sonne. Let's Dance est enregistré et mixé à New York en un temps record. À peine 17 jours, symbole éloquent de la volonté du chanteur à opérer un changement radical. Il n'a pas fait appel à son producteur habituel, Tony Visconti, avec qui il travaille pourtant depuis une décennie. Il n'a même pas pris la peine de le prévenir. Après cet épisode, ils resteront fâchés pendant 20 ans.
Mais David Bowie a eu raison de prendre des risques.
Le succès va aller bien au-delà de ses espérances. Let's Dance est l'une des meilleures ventes de l'année 1983. Put on your red shoes and dance.
Let's Dance, David Bowie, qui donnera son nom à l'album paru le 14 avril 83.
Oui, succès phénoménal, succès tant espéré, il le voulait. Hein. Presque 11 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Il a bien fait de faire appel à Nile Rodgers, David Bowie.
La partie sur signée Amblin Roche. Merci Amblin, à
merci.
Demain. 6h29, Laurent Cabrol, c'est à vous.
Vous aimez David Bowie? Bowie.
Ben oui.
J'ai répondu, bon oui. Ben oui. Alors, moins 5 à Charleville-Mézières en ce moment. Là, c'est moins souriant parce que franchement, j'ai l'impression que ça s'était un peu accentué par rapport à hier. Moins 5 à Charleville, à Épinal, à Vichy, à Luxeuil et Rodez. Moins 5. Moins 3 à Saint-Etienne, moins 2 à Clermont-Ferrand et Nancy. Nous avons moins 1 à Mulhouse, 0 à Strasbourg, 1 à Besançon, 3 à Lyon, fort heureusement Marseille, Lille, Nantes, Cognac, Paris se situent entre 4 et 5 et 7 à Toulouse. Vous voyez que les températures ne sont pas encore très réjouissantes dans la journée entre 10 et 18 degrés. Je voulais simplement dire à nos amis que partout il fera presque beau, je dis presque beau parce que le grand beau temps, je vous le disais tout à l'heure, sur le littoral atlantique, le sud-ouest, le massif central, la région parisienne, la vallée de la Loire, le Berry et la Normandie, mais sur la Picardie, le nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace, nous avons des nuages qui sont certes provisoires, mais parfois porteurs de quelques flocons ou de quelques averses ou giboulées en tout genre. Les vents viennent toujours du nord et du nord-est, ces satanés vents, ils nous agacent. Voilà, c'est tout ce que je dis. Tant qu'ils seront là, il fera froid.
Bon, bah c'est dit. À tout à l'heure. Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Soyez les bienvenus sur Europe 1 tout de suite. Un nouveau journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour à toutes et à tous.
Il est 6h30.
Nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France.
Inquiétude vis-à-vis du variant brésilien qui conduit Jean Castex à bloquer les voyages et nouvelle incertitude dans le même temps sur la vaccination. Le laboratoire Johnson & Johnson reporte le déploiement de son vaccin en Europe après des caillots sanguins aux États-Unis. Anne Hidalgo tente de prendre une dimension nationale, mais dans l'hémicycle du Conseil de Paris, l'opposition la renvoie au problème de saleté de la voie publique. Et puis, eux ont tenu bon face au Bayern, les joueurs du PSG, battus hier soir, mais d'un but seulement, ils sont qualifiés pour le dernier carré de la Ligue des Champions.
Après le journal, le RN est-il en mesure de remporter la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur? Nous vous dévoilons un sondage Europe 1 La Tribune réalisé par l'IFOP. Première photo dans cette région qui sera l'une des plus scrutées et premiers enseignements avec Frédéric Dabi, le directeur du pôle opinion et stratégie à l'IFOP. Il est mon invité dans 10 minutes.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
C'est un nouvel imprévu dans la campagne vaccinale. Le laboratoire Johnson & Johnson a annoncé hier qu'il reportait le déploiement de son vaccin en Europe. Un peu plus tôt, les autorités sanitaires américaines avaient préconisé de faire une pause dans l'utilisation de ce sérum après avoir reçu, Anne Le Gall, plusieurs signalements portant sur des cas sévères de caillots sanguins.
Oui, ces thromboses cérébrales atypiques avec chute des plaquettes sanguines qui surviennent quelques jours après l'injection intriguent les autorités sanitaires. Aux États-Unis, 6 femmes de moins de 50 ans sont concernées et l'une d'elles en est décédée. Alors statistiquement, ces caillots sanguins sont très rares, moins d'un cas pour un million, mais ils font penser à ceux survenus après des injections d'AstraZeneca, un autre vaccin à vecteur viral. Pour Marie-Paul Kieny, présidente du comité vaccin Covid en France, cette suspension du vaccin Janssen est un bon principe de sécurité.
Il faut effectivement comprendre et après ça, en fonction de ce qu'on aura compris, s'assurer que ce vaccin, je l'espère, sera mis en utilisation de la façon la plus sûre possible.
200 000 doses de ce vaccin Johnson & Johnson sont déjà arrivées en France, mais en attendant le résultat de nouvelles expertises, le déploiement du sérum est suspendu partout en Europe, sans plus de précision sur le calendrier pour l'instant.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
On l'entend, le calendrier de la vaccination est donc peut-être encore contrarié, ce qui ne sera pas sans conséquences économiques.
Et pour les finances publiques également, car le ministre du Budget le dit ce matin dans le Figaro, nous retirerons progressivement les aides en place, mais seulement à mesure que la situation s'améliorera. Voilà ce qu'explique Olivier Dussopt. Il donne d'ailleurs une estimation de ce que la crise aura coûté sur 3 ans. Chiffre astronomique, 424 milliards d'euros d'argent public. Alors, comment en arrive-t-on à cette estimation, Olivier Samain ? Vous avez sorti votre calculatrice.
En 2020, la crise sanitaire a coûté 158 milliards d'euros aux finances publiques. Il a fallu multiplier les dépenses exceptionnelles pour faire tourner l'hôpital, financer le chômage partiel et les aides aux entreprises, et dans le même temps, renoncer à d'importantes rentrées fiscales et sociales. Ça, c'est donc l'année dernière. Cette année, le coût sera encore plus élevé, 171 milliards, toujours les mesures d'urgence, mais aussi les premières dépenses engagées dans le cadre du plan de relance. Et l'an prochain, la facture diminuera, oui, mais pas tant que ça. 96 milliards prévoit le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, dont 40 à 50 au titre du plan de relance. Total, 424 milliards sur 3 ans. Voilà donc la traduction budgétaire du « quoi qu'il en coûte » dont on sortira un jour, dit Olivier Dussopt dans une interview au Figaro, mais de façon progressive, précise-t-il, à mesure que la situation s'améliorera.
Olivier Samain du service économie d'Europe 1.
Pas facile de jouer sur tous les tableaux pour Anne Hidalgo, maire de Paris, mais à qui on prête une ambition présidentielle.
Oui, une nouvelle session du Conseil de Paris a débuté hier, conseil municipal. Elle va durer jusqu'à vendredi. Anne Hidalgo aurait bien aimé éviter les sujets qui fâchent, mais c'est raté visiblement quand on assiste, comme Hélène Terzian l'a fait pour Europe 1, à cette séance.
Je vous propose, sans plus attendre, de passer au sujet suivant.
Un débat apaisé sur la situation sanitaire, Anne Hidalgo semble échapper à la polémique sur la propreté.
Oui, madame.
Un rappel au règlement.
Rappel au règlement, allez-y, madame Dati.
C'était sans compter sur Rachida Dati, chef de file de l'opposition.
Poubelle pleine, à ras-bord, tags et graffitis à tous les coins de rue, affichage sauvage, traces d'urine. Revenez à Paris, madame Hidalgo. Votre désertion est un mépris des Parisiens et de Paris.
L'élu LR fait allusion aux ambitions présidentielles que l'on prête à la maire, qui répond dans son fauteuil d'édile.
Merci, madame la présidente. Je poursuis notre ordre du jour. La question du logement.
Fin de non-recevoir inaudible pour la droite qui perturbe le débat.
C'est ce qui fait sûrement la différence entre ceux qui ont à cœur les questions sociales, de lutte contre les inégalités, et ceux qui veulent en permanence instrumentaliser le débat public.
Une confrontation gauche-droite dans l'arène parisienne, avant de peut-être se lancer dans l'arène présidentielle.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1.
Il est 6h35, après 2 semaines de procès à la cour d'assises de Seine-et-Marne, toujours pas d'explication de la part du conducteur qui avait foncé sur une pizzeria en 2017.
Oui, une adolescente avait perdu la vie, il y avait eu des blessés, une dizaine d'autres personnes. Hier, le suspect, l'accusé, a longuement été questionné. Les victimes, nombreuses dans la salle, n'ont pas du tout été convaincues. Justin Morin.
Son avocat avait prévenu l'accusé à des trous de mémoire. Pour se justifier, une phrase, « J'étais dans le flou », expression répétée une dizaine de fois, « J'étais dans la détresse, j'ai vrillé dans ma tête ». Difficile pour Henri d'accepter ses excuses.
Pour moi, il n'est pas sincère.
Il était à la terrasse de la pizzeria le soir des faits, avec Maggie qui n'a pas retenu ses larmes pendant l'interrogatoire.
C'est trop facile, c'est un manque de respect pour les victimes en fait, qui sont là devant lui. Et c'est sa réponse un peu bateau quand il ne sait pas quoi répondre parce qu'il a peur de trop en dire. Il a tué une petite fille, il a détruit des vies, donc il faut qu'il prenne un max.
Les parents de l'adolescente décédée ont souvent baissé la tête, l'air lassé, voire exaspéré. Leur avocat, François Mazon, confirme.
C'est insupportable. En face d'eux, ils ont un homme qui bafouille, qui dit qu'il fonce dans une pizzeria, mais pas pour tuer, qui... parle d'accident puis ensuite d'acte volontaire, c'est la pire des choses pour les victimes.
L'accusé risque la perpétuité, mais si les jurés reconnaissent une altération de son état au moment des faits, comme l'ont conclu les experts psychiatres, sa peine pourrait être réduite.
Récit de Justin Morin, on attend le verdict dans cette affaire demain dans la journée. Le football, vous l'avez vécu sur Europe 1 en direct, la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Défaite, certes, hier soir, 1-0 sur sa pelouse du Parc des Princes contre le Bayern Munich, mais une défaite qui suffit à la joie des Parisiens, qualifiés grâce à leur succès du match aller 3-2. Paris qui s'invite désormais à la table des plus grands, Julien Froment.
Effectivement, le Paris Saint-Germain, encore parmi les 4 meilleures équipes d'Europe, deuxième demi-finale d'affilée. 30 ans que ce n'était plus arrivé à un club français, c'est même la première fois dans l'histoire du PSG. Et là en plus, les Parisiens ont sorti le champion en titre, le Bayern Munich. L'actionnaire qatarien QSI récolte enfin les centaines de millions d'euros semés dans le Paris Saint-Germain depuis maintenant 10 ans. Son président Nasser El Khelaifi savoure ce nouveau statut chez nos confrères de RMC Sport.
Je pense que l'équipe a vraiment grandi et l'expérience pour ce match maintenant, quand même. Cette année, on a gagné contre Manchester United, contre Barcelone, Grand Barcelone, contre la meilleure équipe, pour moi, Bayern. Ça veut dire beaucoup de choses. On est vraiment là, on est dans le grand club.
Et surtout, cette nouvelle demi-finale peut accélérer les choses concernant les deux gros dossiers du PSG cette saison, à savoir les prolongations des deux stars, Neymar et Kylian Mbappé. Pour le Brésilien, c'est une question de jour. Lui-même l'a admis à une chaîne brésilienne. Sa prolongation, ce n'est plus un sujet. Il se sent vraiment bien à Paris. Quant à Mbappé, toujours en pleine réflexion, il réclamait des garanties sur le projet sportif. C'est chose faite. Le projet Paris Saint-Germain est solide, durable et surtout, il n'a désormais rien à envier aux autres grands d'Europe.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1, la demi-finale. Ce sera face à Manchester City ou bien face à Dortmund. Et hier soir, Chelsea s'est qualifié face à Porto.
Voilà, c'est complet. C'était votre journal avec François Geffrier. Il est 6h39.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Les élections régionales auront donc bien lieu au mois de juin, décalées d'une semaine. Retenez donc ces dates, 20 et 27 juin. Et nous nous intéressons ce matin à la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec ce sondage Europe 1 que nous vous dévoilons, sondage réalisé par l'IFOP. Bonjour Frédéric Dabi.
Bonjour.
Bienvenue dans le 5-7 d'Europe 1, vous dirigez le pôle opinion et stratégie à l'IFOP. Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain, quelle liste y aurait-il le plus de chances pour que vous votiez? Voilà la question que vous avez posée avec des mots dans le bon ordre d'un échantillon d'un millier d'habitants de la région PACA. La réponse numéro 1, Frédéric Dabi, eh bien c'est la liste du Rassemblement National, 31%. Le RN qui confirme son ancrage dans cette région.
Oui, très clairement, 31% pour Thierry Mariani, qui est un ancien, une ancienne personnalité de droite. Alors c'est un score important, mais c'est un score très inférieur aux 40% qu'avait réussi Marion Maréchal Le Pen au régional de 2015. Donc Thierry Mariani arrive en tête, il devance le président sortant, Renaud Muselier, qui fait 27%, mais qui tient le choc, hein, 31-27, c'est presque dans la marge d'erreur. Et c'est vrai que ce scrutin annonce un mano à mano, un duel Rassemblement National Renaud Muselier. C'est une sorte de revanche de 2015. Et ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas qu'un duel politique, c'est un duel sociologique qui oppose deux provinces, si je puis dire.
Alors, expliquez-nous pourquoi un duel sociologique?
Parce que c'est un peu ce qu'on avait vu ce week-end dans l'enquête IFOP fiduciaire pour le JDD sur l'opposition Le Pen-Macron. Il y a des catégories très typées qui choisissent le Rassemblement National et des catégories très spécifiques qui choisissent Renaud Muselier. Renaud Muselier est très fort chez les personnes âgées, Thierry Mariani chez les jeunes. Renaud Muselier surperforme dans les catégories supérieures, Thierry Mariani dans les catégories populaires. Même chose pour le niveau de diplôme. On a vraiment pas de zone de frottement. On a vraiment deux électorats qui se superposent. Pour l'instant, au premier tour, avantage Thierry Mariani, mais c'est beaucoup plus serré qu'en 2015. On voit que Renaud Muselier capitalise sur sa bonne gestion perçue par les habitants de la région pendant la période du Covid. Et c'est vrai qu'en dehors de ces deux listes, seule une liste dépasserait 10% et serait en mesure de se qualifier pour le second tour. C'est la liste En Marche.
La liste En Marche qui est créditée de 13%, qui est très loin malgré tout, hein.
Oui,
la liste elle est extrêmement longue. Alors c'est vrai que Provence-Alpes-Côte d'Azur, Sébastien, c'est pas une zone de force du macronisme. À l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron avait fait à peine 19, 5 points de moins que sa moyenne nationale. 13% pour Sophie Cluzel, c'est pas un score trop faible, mais elle sera plus arbitre ou faiseur de roi en fonction de ses alliances de second tour, si elle se maintient, si elle fusionne avec la droite. Mais très clairement, en dehors de Mariani et Renaud Muselier, personne n'est dans le jeu. On est vraiment sur ce mano à mano.
Ce mano à mano avec donc la liste Rassemblement National qui est menée, et c'est aussi nouveau pour cette élection, par un ancien des LR, Thierry Mariani. Est-ce que ça pèse? Est-ce que ça peut tenter certains électeurs de la droite de franchir le pas et d'aller voter pour le RN?
Oui, clairement oui, hein. Thierry Mariani, c'est quelqu'un qui est connu dans le paysage de droite. Il était ministre, secrétaire d'État aux transports pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il arrive par exemple à capter 16% de l'électorat Fillon. Ce n'est pas beaucoup, mais ça fait beaucoup de points, même si c'est vrai qu'il fait beaucoup moins bien que Marion Maréchal Le Pen. Ce qui est peut-être la vraie différence par rapport au régional de 2015, c'est l'état de la gauche. En 2015, la gauche avait dû disparaître du paysage électoral régional, puisqu'elle s'était retirée pour éviter une victoire de Marion Maréchal face à Christian Estrosi. Là, on a une gauche extrêmement faible, laminée, comme vous le voyez. Il n'y a pas une liste qui dépasse 8% et donc qui serait en mesure de se maintenir pour le second tour. C'est intéressant, ce qu'on voit au niveau national se traduit également régionalement dans cette région sud.
Ouais, je vais donner rapidement les chiffres qui sont donnés aux listes de gauche. PS 7%, alors que le PS faisait 16% en 2015. Europe Écologie Les Verts 8%, La France Insoumise 7%. On le voit, gauche très faible et extrêmement divisée. C'est aussi la raison.
Oui, voilà. Alors peut-être que comme cela s'est passé dans les Hauts-de-France, si la gauche arrive à s'unir, ça ferait peut-être un score supérieur. Mais vous savez, l'électoral, ce n'est pas une addition, ce n'est pas de l'arithmétique, c'est une dynamique. Et très très clairement, on a des gauches divisées, on a des gauches très différentes selon leur sociologie, selon leur offre programmatique. Et c'est vrai que la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'En Marche va soutenir Renaud Muselier et lui permettre d'arriver en tête? C'est une autre hypothèse que nous avons fait dans cette enquête. Où est-ce qu'on aura ce paysage éclaté qui favorise au premier tour le Rassemblement National?
Mais parce que vous testez cette hypothèse dans laquelle La République En Marche n'aurait pas de liste spécifique et soutiendrait la liste LR, et dans ces cas-là, c'est la liste LR de Renaud Muselier qui passe devant.
Ça change tout. On voit que ça change la dynamique, puisque Renaud Muselier arrive en tête avec 34%, il devance le Rassemblement National, hein, c'est pas arrivé depuis longtemps, puisque même à la présidentielle, c'était Marine Le Pen qui est arrivée avec 28% nettement en tête. Ça change tout, surtout que ces électorats se superposent plutôt correctement. Dans cette deuxième hypothèse, Renaud Muselier parvient à capter plus de 2/3 de l'électorat Macron, et cela changerait tout. Maintenant, est-ce que cette alliance LREM-LR ferait fuir davantage vers le Rassemblement National des électeurs de droite traditionnels refusant l'alliance avec le parti d'Emmanuel Macron? C'est le dilemme auquel est confrontée, si je puis dire, la droite dans cette région.
Il y a quelque chose de très frappant, et vous l'abordiez tout à l'heure dans la composition sociologique de l'électorat, c'est que le RN a rajeuni son électorat, premier chez les électeurs de moins de 35 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et ce qui est très très notable, c'est que le RN est fort dans la jeunesse, mais dans une jeunesse particulière. Il n'est pas à un niveau très élevé chez les moins de 25 ans, mais il est très fort. Il atteindrait 48% chez les 25-34 ans. Et qu'est-ce que c'est que cette génération? C'est la génération qui, aujourd'hui, est susceptible de subir de plein fouet les effets de la crise économique. C'est la génération de l'insertion qui peine à s'insérer, celle du petit boulot qu'on arrête, du stage qui est en fait reporté, de la débrouille. Et c'est vrai que c'est souvent dans ces générations charnières, 25-34 ans et 50-64 ans, où là aussi, pour d'autres raisons, on souffre des effets de la crise, on peut se faire renvoyer de son entreprise, où on est très sensible au discours du Rassemblement National, alors que Renaud Muselier est plutôt fort aux deux extrêmes du spectre générationnel, chez les plus jeunes et également chez les plus âgés.
Chez les plus âgés. Quand on regarde votre étude, Frédéric Dabi, est-ce qu'on voit se dessiner un scénario dans lequel le RN parvient à décrocher cette région?
ce n'est pas impossible. Quand on se souvient ce qui s'est passé en 2015, quand on se souvient que dans un département, le Vaucluse, au second tour, Christian Estrosi était arrivé, avait été battu par Marion Maréchal, 52-48. On a testé une hypothèse de second tour dans cette enquête. Alors, bien sûr, prudence absolue. On ne connaît pas encore l'offre électorale. La campagne n'a absolument pas commencé. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les Provençaux, voilà, comme les Français, ont la tête à cette
Et justement, qu'est-ce qui va peser, selon vous, en quelques mots, sur la campagne? Qu'est-ce qui va faire la différence entre, du coup, cette liste de droite et la liste du Rassemblement National?
Je pense que d'un côté, c'est la capacité de Renaud Muselier à montrer un bilan qui a été apprécié par les habitants. Il y a eu des enquêtes IFOP dans cette région et montrer le chaos que représenterait une victoire du RN. Et de l'autre côté, Thierry Mariani va chercher, comme le fait Marine Le Pen à l'échelle nationale, à banaliser le vote RN et à vouloir créer une rupture. Pour l'instant, on a un second tour très serré, avantage Renaud Muselier, mais que 2 points d'avance, 39 contre 37, contre Thierry Mariani. On est dans l'incertitude et c'est peut-être cette région qui va être la région la plus observée au soir du premier tour et du second tour.
Évidemment, hein, ce n'est jamais une prédiction et vous le disiez, c'est un sondage, une photo de l'opinion prise aujourd'hui dans cette région très scrutée qui est la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous retrouverez bien sûr tous les résultats de ce sondage Europe 1, la tribune réalisée par l'IFOP sur Europe 1.fr. Merci beaucoup Frédéric Dabi pour votre éclairage ce matin. Merci à vous, très bonne journée.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 7h10, le dispositif alerte enlèvement a été levé, mais l'enquête continue car Mia n'a pas encore été retrouvée. Cette petite fille de 8 ans a été kidnappée en fin de matinée hier dans les Vosges par 3 hommes. Sa mère, qui n'a pas le droit de la voir seule, est soupçonnée également par les enquêteurs. Le vaccin Johnson & Johnson suspendu aux États-Unis après 6 cas de thrombose recensés parmi 6 millions d'Américains vaccinés. Le laboratoire reporte son déploiement en Europe. Et puis ils avaient organisé une soirée dans un gîte transformé pour l'occasion en discothèque. 2 hommes d'une 20aine d'années ont été mis en examen hier à Toulouse. L'un d'eux a même été placé en détention provisoire. Bonjour Anissa Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour ce matin nous emmène dans l'espace. Il existe désormais des satellites dépanneurs. Ils vont pouvoir prolonger la vie des vieux satellites plutôt que de les laisser à l'abandon en orbite.
Oui, parce qu'un satellite, ça ne fonctionne pas indéfiniment. Au bout d'un moment, il finit par manquer de carburant, par se transformer en épave. En plus, une épave extrêmement dangereuse, hein, puisqu'elle file à plus de 20 000 km/h dans l'espace. Donc évidemment, c'est devenu un vrai problème. Comme l'orbite est de plus en plus encombrée, eh bien, on redoute un scénario catastrophe avec des collisions en chaîne, un peu comme dans le film Gravity, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Ouais.
Et d'où cette idée d'aller refaire le plein ou d'aller réparer les vieux satellites directement sur orbite pour étendre leur durée de vie.
Aller refaire le plein dans l'espace, c'est pas si simple. Ils existent déjà, ces dépanneurs de l'espace?
Oui, la toute première mission vient de réussir, hein. c'était hier matin. On a vu un satellite garagiste totalement robotisé venir s'arrimer à un vieux satellite de communication. Il était en service depuis 17 ans, il avait presque plus de carburant. Et comme à l'époque, on n'avait rien prévu pour refaire le plein, eh bien les deux satellites vont rester accrochés l'un à l'autre et ce sont les propulseurs du nouveau qui vont prendre le relais de ceux de l'ancien pour maintenir son attitude et son orientation. Du coup, il va pouvoir rester en service au moins 5 années supplémentaires. Vous savez qu'un satellite, envoyer un satellite, ça coûte extrêmement cher. Donc c'est aussi une façon de réduire les coûts.
Est-ce que ça veut dire qu'à terme, on peut imaginer des satellites avec une durée de vie quasiment illimitée?
Oui, parce qu'ils seront réparables, modifiables, on pourra refaire le plein à l'infini plutôt que d'avoir des modèles jetables comme aujourd'hui. Ça évitera de transformer l'espace aussi en décharge parce qu'on va finir par avoir du mal à effectuer de nouvelles missions s'il faut slalomer entre les épaves.
Ouais, on est en train de polluer et de laisser un certain nombre de déchets dans l'espace, mine de rien. Voici donc les satellites garagistes, l'innovation du jour d'Anissa Mbida. Merci, à demain. Et nous débutons notre tour du monde ce matin aux États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une de la presse américaine ?
Eh bien, le retrait de toutes les troupes américaines d'Afghanistan d'ici au 11 septembre, c'est le principal titre du New York Times. La décision sera officiellement annoncée tout à l'heure par Joe Biden pour marquer la fin de ce qu'on appelle la guerre éternelle des États-Unis. Joe Biden choisit une date symbolique, le 11 septembre, souligne le Wall Street Journal, le 20e anniversaire des attaques terroristes d'Al-Qaïda sur le sol américain. 20 ans pendant lesquels les États-Unis ont dépensé des milliers de milliards de dollars pour lutter contre les menaces extrémistes. Quelques milliers de soldats vont donc rester en Afghanistan après le 1er mai. C'était la date de retrait négociée entre les talibans et l'administration Trump, rappelle le Washington Post. Joe Biden rate cette échéance, mais espère réussir là où Trump a échoué. La Maison-Blanche ne va pas pour autant quitter des yeux les groupes terroristes, avance Politico. Ce retrait, c'est surtout un repositionnement des troupes américaines dans la région pour éviter l'émergence d'une nouvelle menace.
Alexis Guilleux aux États-Unis pour Europe. Nous partons dans le pays voisin, au Canada. Bonjour Alexandre Lepoutre.
Bonjour Sébastien.
Quel sujet fait les gros titres chez vous ?
Eh bien ici, c'est la découverte du plus gros cluster, du plus gros foyer de contamination au monde du variant brésilien, en dehors bien sûr du Brésil. Il se trouve en Colombie-Britannique, province la plus à l'ouest du Canada. Plus de 900 cas selon le Toronto Star, surtout des jeunes de 20 à 39 ans, nous dit le Globe and Mail. Et le quart de ces contaminations se concentre dans une station de ski, Whistler, située à 100 km au nord de Vancouver. Le plus troublant dans cette histoire, écrit The Guardian, c'est que personne ne sait comment le variant brésilien est arrivé là. Les frontières du Canada sont fermées aux touristes et les Canadiens qui rentrent au pays sont soumis à une quarantaine de 2 semaines qu'ils doivent passer en partie à l'hôtel. Du coup, cette station de ski a fermé ses portes au public. Le Vancouver Sun nous apprend aussi qu'une campagne de vaccination express y a été lancée pour immuniser tous les habitants et tous les travailleurs saisonniers.
Alexandre Lepoutre, correspondant d'Europe 1 au Canada, du côté de Vancouver. Nous terminons notre revue de presse internationale en Chine avec vous Sébastien Lebelzig. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui occupe les médias à Pékin ?
Alors c'est le racisme anti-asiatique qui fait la une des journaux aujourd'hui en Chine. Racisme qui s'exprime notamment aux États-Unis avec de nombreuses agressions que détaille le China Daily aujourd'hui. C'est le reflet, selon le journal de Pékin, de l'hostilité grandissante de l'Occident vis-à-vis de la Chine et le symbole d'une Amérique en perdition. L'agence officielle chinoise presse Washington d'agir contre ce racisme et de protéger les ressortissants chinois. C'est une tragédie, commente Chinois, qui parle d'une Amérique hantée par ses démons racistes, le Ku Klux Klan et le néo-nazisme. Alors évidemment, la presse chinoise officielle se saisit de ces violences pour fustiger son ennemi américain et va même jusqu'à expliquer que la guerre commerciale ou encore les accusations de génocide dans le Xinjiang musulman chinois sont le reflet de ce racisme anti-asiatique. C'est ce qu'écrit en tout cas le journal Global Times.
Sébastien Lebelzig à Pékin, merci. Europe 1. Paris battu, mais Paris qualifié. Le match aller a suffi. Le Bayern est tombé. Le PSG va en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est à la une du 7-9 de Mathieu Béliard. A tout de suite.